Un tango, une danse, un baiser.
Et du bouddha, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on l'aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le laboureur et ses fils est une fable de La Fontaine que peut-être votre père aimait beaucoup, Paul Duboucher, et c'est peut-être parce qu'on ne sait pas toujours l'endroit du trésor laissé que votre livre ne se tient pas à un point fixé sur votre père, André Duboucher, mais qu'il suit de très nombreux mouvements. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Debout sur le ciel, c'est le titre de votre récit, et il est publié chez Gallimard. Cette émission va être diffusée le 1er mai, nous sommes donc de manière fictive le 1er mai, mais nous sommes en fait le 19 avril, jour de notre enregistrement. Si on avait voulu faire coïncider des dates de naissance et de mort, on s'y serait pas pris autrement. Pourquoi, Paul Duboucher ?
Écoutez, je dois dire que quand j'ai reçu votre invitation, je ne sais pas si c'est le fait du hasard cette date, mais effectivement j'ai été...
Mais je le réalise là maintenant seulement.
Oui, effectivement, c'est ma date d'anniversaire et c'est aussi l'anniversaire de la mort de mon père, donc c'est étonnant.
Une partie de la première partie de votre récit commence justement par cet étonnement. Vous dites que la veille, je crois, de la mort de votre père, vous n'imaginez pas que cela puisse se passer ainsi. Vous vous dites, ça ne va pas être possible que ces deux dates coïncident.
Oui, c'est vrai, ça paraît énorme. Je ne sais pas pourquoi ça paraît énorme. Peut-être parce que c'est drôle d'ailleurs. Très souvent, les gens me disent « Oh là là, ça doit être terrible pour toi ». Et je crois que je le dis dans le livre, mais je ne sais plus trop tout ce que j'ai dit. J'ai toujours considéré que c'était un don.
Oui,
j'ai toujours pris ça comme un dialogue qui se continuait en fait. Même si la notion d'anniversaire, je suis pas spécialement attachée, mais voilà, quelque chose comme une sorte de signe de la main.
Ça vous permet de raconter qu'il était là le jour de votre naissance, et justement dans ces souffles continués et arrêtés qu'observe votre livre, vous notez que ce n'est pas une présence si commune à cette époque-là, qu'un père soit près de son enfant au moment où il prend son premier souffle.
Là, on est dans l'anecdotique, mais qui a évidemment sa part dans la vie et dans les choses de la vie. Et effectivement, je suis née en 1951, c'était la grande vogue de l'accouchement dit sans douleur. On sait depuis que c'est pas tout à fait comme ça. Mais en effet, on apprenait aux femmes à accoucher avec la fameuse respiration du petit chien, et les hommes, les pères, les maris venaient d'être introduits auprès de leurs femmes et de leurs compagnes. Enfin, c'était tout à fait nouveau, et j'ai toujours entendu que mes parents avaient fait partie de cette nouvelle génération qui avait assisté à la naissance de leur enfant. Oui, je sais que mon père, dans un très ancien texte, dans ses carnets, enfin, évoque cette naissance.
Vous dites que c'est anecdotique et en même temps, ça a tellement son importance puisque votre texte, Paul Duboucher, termine par la mention de ce que disait votre père, à savoir se donner naissance chaque oui. jour à soi-même. D'un seul coup, on est quand même beaucoup plus loin que l'anecdotique.
Ah, bien sûr. Non, mais l'anecdotique a des racines profondes. Hein. Oui, se donner naissance chaque jour. Je crois qu'il y a aussi dans cette mention ou cette pensée que j'ai pu avoir de manière récurrente quant à cette coïncidence, un rapport aussi avec le mot que vous avez employé d'ailleurs vous-même, souffle. Je suis pas du tout là pour parler du travail de mon père ni de l'œuvre de mon père, et ce livre n'a pas cette vocation. Mais il est beaucoup question de souffle aussi dans l'œuvre de mon père, comme il en était question au moment où ma mère m'a mise au monde.
Vous écrivez dans ce très beau texte qui en effet ne parle pas de l'écrit ou des écrits d'André Dubouchet, mais de la manière dont vous vous questionnez sur le point final, sur ce qu'il y a à poursuivre, sur ce qui est possible de dire après que quelqu'un est mort, quelqu'un qu'on a aimé. Quand vous dites d'ailleurs que la mort de quelqu'un, c'est une place qui nous est retirée dans le monde. Vous écrivez que c'est quelqu'un qui demandait à ce qu'on soit à la hauteur de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Notamment, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant?
Pour un enfant, il me semble que dans ce livre, il est question d'anachronisme des rencontres. Et je ne suis pas sûre qu'un enfant perçoive dans le présent, comme ça, très intense, qui est celui d'un enfant, toujours la nécessité de cet anachronisme. On ne l'aperçoit qu'avec le temps qui passe et le temps qui se perd. Et pour un enfant, c'est pas toujours évident d'être à la hauteur. Et c'est pas et en même temps ça concerne des choses tellement précises, tellement factuelles, comme en effet un repas, un nom, des choses, des poèmes, des textes lus, la nature partagée ensemble, la simplicité partagée ensemble, que c'est aussi une évidence. C'est pas évident et c'est évident en même temps. Mais c'est des considérations qu'on ne peut avoir qu'après. Savoir si on est à la hauteur. Et encore une fois, je précise bien qu'il ne s'agit pas d'une altitude. Pas d'une hauteur qu'on peut mesurer avec un mètre.
Mais d'une forme d'exigence.
D'une relation. D'un étiage de relation.
Quand vous parlez d'anachronisme, vous parlez de quoi ?
On se rencontre quelquefois a posteriori. On s'est rencontré, mais on ne le savait pas. On se rencontre parce qu'on relit un mot, on relit un texte qu'on a lu ensemble, mais on ne savait pas qu'on s'était rencontré à ce moment-là. Ou on entend une musique qui tout à coup fait écho à quelque chose. Et qui... Je pense que l'évocation du souvenir n'est vraiment là que pour essayer de convoquer quelque chose qui se dérobe en permanence. Et c'est, il me semble, mais je vais encore citer de travers, mais je crois que je le cite à la fin du livre aussi, cette très très belle parole de Victor Hugo que mon père aimait beaucoup, qui dit quelque chose comme la pensée c'est l'illimité, exprimer l'illimité, cela ne se peut. Et mon père commente à un moment en disant. Là aussi, je vais sans doute écorcher, mais alors.
Vous voulez qu'on ouvre le livre ?
J'aimerais bien m'en souvenir. Mmh. Je m'en souviens pas. Enfin, ça m'échappe. Oui, l'essentiel ne peut pas s'exprimer, enfin quelque chose comme ça. Et le souvenir est de cet ordre de l'essentiel qui se dérobe et qu'on ne peut pas exprimer. Et on parle et on l'évoque et on l'invoque précisément pour essayer de s'en approcher. Je sais plus du tout quelle question vous m'avez posée.
Peu importe, mais... ça me permet de rebondir sur la manière dont vous avez pu travailler, le temps avec lequel vous avez travaillé ou comment vous avez travaillé pour ce texte-là, Paul Dubouchet. Vous dites à un moment donné dans le texte ce que vous ne voulez pas que soit votre texte. Vous ne voulez pas ou vous ne pensez pas que c'est un texte sur votre père. D'une même manière, vous parlez de la mémoire et d'un rapport assez singulier que vous établissez pour écrire ce récit « Debout sur le ciel ». Comment vous avez travaillé ?
Avec les choses. J'ai essayé de traiter la mémoire comme il traitait les choses et comme je traite les choses, c'est-à-dire de manière très pratique, très concrète, très charnelle. C'est pas du tout une abstraction. J'ai essayé de tirer un fil, de tirer des fils. Encore une fois, pas de temps pour arriver à sortir de l'eau des souvenirs oubliés dont je voudrais me remémorer, mais pour que ces choses qui sortent de l'eau me donnent une impression que je n'avais peut-être pas réussi à capter sur le moment, me donnent quelque chose de la réalité que je n'avais pas réussi à capter sur le moment. C'est ça, ce décalage et cet anachronisme dont je parle. Et c'est quelque chose aussi que je ressens très fortement quand je lis de la poésie. C'est-à-dire que la poésie, elle n'est pas accessible tout de suite. Elle est accessible après. Mais la musique aussi, vous savez. Ce qui est émouvant dans les choses, c'est ce qui intervient après. C'est ce qu'on lit entre les lignes. C'est ce qu'on entend. Si on pleure d'émotion, c'est pas à cause de la musique. C'est parce que ça va chercher quelque chose et vous ne savez pas sur le moment ce que ça va chercher. Et je pense qu'un texte, c'est pareil. Le texte, il existe en lui-même, mais il existe aussi à cause de tout ce qu'il va faire surgir, de tout ce qu'il va provoquer, et qu'on ne sait pas qu'on va provoquer au moment où on lit. Donc c'est toutes ces choses un petit peu compliquées que j'essaye de mettre en musique en écrivant ce texte.
Et vous diriez que c'est un texte qui est écrit après quoi ?
Après sa mort, ça c'est certain. Mais c'est aussi des consciences très vives de ce que j'ai vécu avec lui, et que je ne pouvais vivre que parce qu'il est mort.
Vous vous posiez la question de savoir ce qui donne la force. C'est une question curieuse. Pourquoi ? Mais on ne peut pas s'en empêcher, pas plus qu'on ne peut s'empêcher de respirer. Votre question est aussi étrange que si vous me demandiez qu'est-ce qui vous donne la force de respirer.
Il y a des exemples d'écrivains qui ont cessé d'écrire.
Mais qui n'ont pas cessé de respirer. Ben j'écris beaucoup moins et je peux très bien envisager de ne pas écrire. Ça marque bien que dans un sens le vent quelquefois est tombé. Mais en faisant ce retour sur le vent, eh bien on renoue avec le vent aussi.
C'est étrange ce retour de la part d'un poète qui a toujours été de l'avant, pour qui la poésie a toujours été en avant.
Oui, mais le retour est aussi en avant. Le retour est un en avant aussi. Ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas une évocation de passé.
Ce n'est pas une répétition.
Il faut l'espérer.
C'est la voix d'André Dubouchet au micro d'Alain Weinstein. C'est une archive de 1995 sur France Culture. Le retour est un en avant, dit-il au micro d'Alain Weinstein.
Oui, bien
sûr. Et juste avant, vous parliez tellement d'anachronisme, de ces différences de temps.
Mais bien sûr, je me reconnais. Le retour est un point de départ.
Mmh.
C'est pas un point de non-retour, c'est un point de départ.
Et ça dit la manière dont vous n'êtes pas justement ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, Paul Dubouchet, à un point fixe. Votre texte suit plein de mouvements, et notamment des en avant, des ouvertures, quelque chose qui va sur le pas, dans la marche.
Vous savez, je retrouvais pas tout à l'heure la phrase « l'essentiel ne peut s'exprimer », mais je pense que ce livre, il ne dit que ça. J'ai précisément toutes ces voix qui sont multiples et qui sont une seule en même temps, cherchent à exprimer un essentiel qui ne peut pas s'exprimer et qui va non pas tourner autour, mais qui à chaque fois va essayer de trouver un socle et un point de départ. Mon père parle d'un en avant, oui, d'avancer, puis à un moment ça s'arrête, tout à coup ça s'arrête parce que c'est comme une falaise, tout à coup au droit de la falaise on s'arrête pour pas tomber, mais et on repart sur un autre chemin qui est un autre chemin et qui va aller aussi vers la falaise, le droit de la falaise. C'est ça ce livre.
Vous écrivez dans ce texte que vous marchiez certains textes ou certains livres oui. de votre père.
Mais c'est-à-dire, oui, j'avais beaucoup aimé en fait cette expression qui est une expression de comédien, hein, que j'ai entendue dans la bouche de comédiens, qui marche sur qui marche sur le plateau pour repérer les grincements, les craquements, savoir exactement évaluer, calculer leur espace, leur poids, leur pesée, et je marche les livres de mon père. C'est une façon de je m'excuse, j'ai d'autres images qui me viennent en même temps. C'est une façon, en effet, je lis la poésie de mon père en passant. C'est-à-dire, je ne vais pas m'asseoir avec un livre ouvert et lire la poésie de mon père. Et je me souviens que mon père regardait les tableaux d'une exposition en passant. C'était comme si, et je sais que j'ai pris ce pli-là aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un pli, mais je crois qu'il y a besoin de cette effraction, de cette impression de découvrir la fraîcheur, quoi, qui n'a pas été, comme si on était le premier, le premier regard, le premier matin, le premier éclat, le premier à avoir cette couleur. Et si je m'arrête devant un tableau et que je cherche à comprendre, je parle du tableau, mais je peux parler de la poésie de la même manière.
Ou de la texte. Nature.
La nature aussi, absolument, absolument. La fleur de talus que j'attrape et qui, en passant dans une marche, et qui est une vraie merveille, et que, dont souvent j'ai très envie de faire un bouquet, que je fais d'ailleurs, et que, après, je me demande pourquoi j'ai fait ce bouquet, mais il y a ce côté de passage qui est très important pour la saisie. Du réel, en fait. On ne s'arrête pas sur le réel, puisque le réel ne s'arrête pas, de toute façon, nous non plus.
Quelque chose qui ne s'arrête pas, c'est aussi ce que vous rendez si bien en décrivant une sorte de dialogue continu. Lorsque vous rentrez, je crois que c'est dans la pièce du bureau de votre père, qui est en train d'écouter de la musique, vous sentez que rien ne s'arrête. Ni son écoute de la musique, ni le dialogue avec vous, qui en fait a peut-être commencé avant et se poursuivra après, que les mots auront fini de sonner dans la pièce, on sent qu'il y a une sorte de continuum.
Oui, absolument. Il y a un continuum à la fois un très grand sérieux dans le partage que nous pouvons faire d'un espace et d'une conversation. Mais ce sérieux, ça sortit tout à fait de légèreté. Ce qui est sérieux, c'est la relation et la présence à l'autre, et qui est aussi en rapport quand j'entrais effectivement et que la musique était là, puisqu'il écoutait beaucoup de musique et qu'il l'écoutait pas du tout comme un fond sonore, mais il l'écoutait de manière dans une relation personnelle avec la musique, comme il pouvait avoir une relation personnelle avec un tableau, et comme il avait une relation personnelle avec celui qui arrivait. Voilà, je sais plus quelle.
Ça n'enlève rien. Vous disiez à l'instant que ça n'enlève rien. C'est-à-dire, vous pouvez très bien rentrer dans la pièce. Il est en train d'écouter de la musique. Il va être tout à la relation qui va s'installer avec la personne qui entre dans la pièce. Et pour autant, quelque chose de son écoute de la musique se poursuit.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et à ce moment-là, soit nous écoutons ensemble, et nous sommes dans une relation, ensemble, en train d'écouter, avec quelque chose de présent, mais en aucun cas ça ne va devenir un fond sonore à une conversation entre nous. Enfin, il y a quelque chose. Vous parlez d'un continuum, oui, il y a un continuum, mais ce continuum est celui du dialogue qui l'établissait toujours avec les choses et avec les êtres et avec les espaces que nous partageons.
Alors évidemment, c'est la même matière, mais ça se présente d'une façon tout à fait différente. quant au poème, de la publication d'un poème, de l'écriture d'un poème, je suis absolument responsable. De ces pages de carnet, je ne me sens à vrai dire qu'à moitié responsable. Cette matière poétique qui est à l'origine des poèmes, des livres dont vous parlez, elle est soustraite au carnet. Je me suis bel et bien assis à une table dans une chambre pour les écrire, en laissant le carnet de côté. Le carnet, les carnets eux-mêmes n'ont pas été écrits à une table, je ne me suis pas attablé. Ça a été écrit au long de randonnées, au cours de marches, en somme noté pour me tenir compagnie, notant ce qui me traversait l'esprit, souvent griffonné de façon illisible, ce qui est à l'origine d'ailleurs de certaines erreurs de transcription dans le premier choix. Beaucoup de ces carnets d'ailleurs ont été égaré.
C'est encore la voix d'André Dubouchet, toujours au micro d'Alain Weinstein. Oui. Ce qui est assez intéressant, c'est le miroir entre vos deux récits. Lui qui raconte la manière dont les carnets s'écrivent, pas du tout assis, et vous qui écrivez, mais avec un autre regard évidemment, votre père qui écrit presque en marchant, quoi, qui oui, écrit oui, debout sur le ciel.
Et nous qui gambadions autour de lui. Et qui étions accompagnés par mon père, ses carnets, sa verticalité, ce ciel, ou cette lande, ou cette mer sur laquelle il écrivait.
Il dit écrire pour me tenir compagnie.
Oui.
Comment vous l'entendez, cette phrase ?
Vous savez, je ne peux pas faire une explication de texte sur ce que dit mon père. Je peux juste...
En même temps, en l'écoutant, vous acquiesciez.
Oui, j'acquiesçais parce que je vois très très bien cette compagnie qui était celle de ses carnets, qui était dans sa poche, qui était comme une chambre, son manteau qui était comme une maison. Enfin, voilà, c'est des choses, c'est des espèces d'associations, vous savez aussi. C'est comment vous dire. C'est difficile. Ça ne s'explique pas, vous voyez, c'est des choses plutôt de l'ordre de... C'est des images, en effet, bien sûr, je le vois très 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 bien dans toutes ces randonnées, toutes ces promenades, en effet, debout, écrivant, toujours debout d'ailleurs, presque toujours debout, même chez lui, debout, aussi, debout, il avait un lutrin où il écrivait debout, et puis cette verticalité qui était importante, parce que oui, c'est les pages étaient punaisées verticalement. Enfin, il y avait une verticalité quand même dans l'écriture. Et la verticalité, c'est celle de En Marche. Et voilà, quand à partir du moment où c'est un livre, c'est pas vertical, c'est couché. Donc
ça oui, lui en enlève un peu de verticalité au texte ou à la pensée quand c'est couché sur le livre.
Non, mais ça lui enlève rien du tout. Mais c'est aussi, j'aime voir ces livres debout sur mes rayonnages aussi.
Ça s'est imposé, le titre « Debout sur le ciel », Paul Dubouchet, lorsque vous avez, je sais pas, commencé ou fini d'écrire ce texte ?
Non, ça s'est imposé. À vrai dire, c'est mon éditeur qui me l'a proposé. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, en fait. Enfin, ça vient de mon texte, mais j'ai trouvé que c'était une belle idée.
Vous aviez avancé son titre ?
J'avais une espèce de titre que je traînais avec après moi, comme ça, dans mes... Enfin, comme on traîne des titres que j'ai abandonné comme un vieil oripeau très vite quand
sans
il m'a
problème
proposé ça, oui.
Thank you. on ne connaît pas la raison pour laquelle il a décidé un jour d'écrire cette œuvre, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Art de la Fugue. C'est un titre qui a été donné par un des fils de Bach, Carl Philipp Emanuel. Et vraiment, on se demande ce qu'il a voulu prouver à lui-même et au monde, parce qu'il avait déjà écrit un nombre de fugues incroyables dans sa vie, des fugues pour clavecin, pour orgue, des chorales. Naturellement, il y a un nombre de fugues incroyables dans toutes les cantates. Et donc, il a quand même décidé de prendre la plume et d'écrire sur quatre portées, alors que voilà, ce qui indique probablement que c'était pas une œuvre qui était seulement conçue pour le clavecin, mais qu'elle allait bien au-delà de cette idée concrète d'un instrument. Certaines personnes parlent même d'une œuvre spéculative, comme si c'était une œuvre qui était destinée à être lue par de grands spécialistes, des collègues de Bach, mais pas forcément à être jouée. Donc encore une fois, beaucoup de points d'interrogation, et c'est vrai que le mystère reste présent, non seulement par ces quelques faits que je viens de décrire, mais aussi simplement quand on a la chance de se mesurer à ce texte. Je crois que le mot est juste se mesurer à ce texte énorme. Il y a sans arrêt des départs de mystère dans les lignes mélodiques, je veux dire, c'est un nombre de questions incroyables, et j'ai certaines réponses, mais il y en a encore beaucoup qui restent ouvertes.
C'est la voix de Cédric Péchia sur France Musique en 2014, parlant de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Il y a quelque chose, Paul Duboucher, dans ce que j'entends là, de la foule, des points d'interrogation contenus dans le texte musical de Bach, quelque chose qui me renvoie à votre propre interrogation sur le point final dont parle votre père juste avant de mourir.
Oui, pas seulement. Enfin, mon père aimait énormément Bach. Enfin, on l'a écouté énormément ensemble. On a beaucoup écouté Bach ensemble. J'ai moi-même commis un petit livre sur Bach il y a une vingtaine d'années. J'aime profondément Bach. Je pense que le point final est le point de départ. Et il y a surtout ces voix qui se croisent, qui se répondent, qui se perdent et qui se retrouvent. Et ça, je pense que c'était quelque chose d'essentiel pour lui et pour moi aussi, dans la manière dont je vis, en fait, dont je comprends ou je comprends pas. Et puis là, ça me touche énormément. Là, je suis un peu surprise par l'émotion, en fait, parce que tout à coup, j'ai l'impression d'une espèce de, à travers la musique, d'une sorte de dialogue à contre-temps avec mon père, comme d'une fugue, justement. Mais bien sûr, la vous savez, ces ruisseaux dans la montagne qui se perdent et qui ressurgissent quelques centaines de mètres de dénivelé plus tard.
Et aussi qui s'éloignent et qui refont.
Et qui refont source et qui refont rivière, absolument. Et la parole est comme ça. Et les relations entre les êtres sont comme ça aussi. Et la poésie est comme ça, je pense aussi. La poésie, c'est aussi ça, ce qui se perd. Donc Bach était très important pour lui et pour moi, en fait.
Est-ce qu'il fugue, est-ce qu'il fuit, vous écrivez dans ce texte-là, Debout sur le ciel, un petit peu du mouvement de votre mère à partir de 1956. Moi, j'ai découvert que c'est quelque chose que vous avez écrit dans un autre texte qui s'appelle Emporté. Et j'ai l'impression, je disais tout à l'heure, que votre texte vraiment imprime ou suit de nombreux mouvements, et donc aussi un peu de celui de votre mère dans ce texte-là. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire qu'il me semble que le mouvement de votre mère que vous écrivez dans Emporté, il est aussi présent dans Debout sur le ciel.
Oui, il est aussi présent. Je pense que... Enfin, je veux faire attention. Je veux pas justement répondre de manière anecdotique et
c'est pas du tout le sens de ma question.
Non, je sais, mais je sais que c'est pas votre question, mais moi je voudrais faire attention à pas y répondre de cette manière-là. Donc, je pense que la compréhension ou la manière dont mon père a traduit en vie cette chose qui a été très, cet épisode qui a été très douloureux, bien sûr, comme évidemment, je pense qu'il l'a traduit musicalement, en fait. C'est pour ça que dans ce livre je parle pas de fuite mais de fugue. Il y a une chose extraordinaire dans les fugues de Bach. Vous connaissez peut-être les suites pour violoncelle de, de Jean-Sébastien Bach.
On va bientôt en entendre une.
Voilà. Alors, dans la cinquième suite, il y a une fugue. C'est la seule des six suites, c'est la seule. Donc, il y a 36 mouvements dans les six suites, hein, puisqu'il y a six mouvements par suite. Et cette suite pour violoncelle, donc, qui est jouée par un instrument monodique, elle laisse à l'auditeur supposer et entendre toutes les voix de la polyphonie que ne peut pas traduire par définition un archer tout seul. Voilà. Et ça, c'est la magie.
Comment ? Parce qu'en vous écoutant, là, je me dis...
Comment ? Il faut l'écouter, mais comment, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne suis pas Bach, je ne suis qu'une auditrice passionnée, mais c'est assez stupéfiant de penser qu'on entend trois, quatre voix. C'est-à-dire, il laisse à l'auditeur, il suscite chez l'auditeur la polyphonie qui n'est pas écrite dans la partition. Et c'est ça aussi... De la poésie de mon père, je pense que c'est aussi ça.
Et quand vous dites « il l'a traduit en vie, il l'a traduit en musique », c'est vrai qu'à lire votre texte « Debout sur le ciel », on voit que toujours tout était un millefeuille, tout était très épais. En lisant ce texte, je me suis dit « c'est comme si ces êtres avançaient dans un temps très épais, quoi, avec plein d'étages ».
C'est formidable d'avancer dans un temps plein d'étages, j'adorerais.
Mais c'est ce que vous écrivez. En tout cas, c'est ce que vous écrivez de peut-être après. Peut-être à contre-temps, comprenez-vous que vous avez avancé dans un temps où il y avait tout le temps une polyphonie, en fait.
Oui, je pense, oui. En tout cas, je me rends compte maintenant, parce qu'en effet, les choses se sont élaborées, ont été comprises au sens pascalien, enfin, comme ça. Mais oui, vous dites que le temps était épais, je crois que vous avez raison. Oui, il y avait une sorte d'épaisseur palpable que sans doute, enfant, je ne percevais pas comme ça, mais qui, oui, certainement.
Pour en revenir au point final, point de départ, donc quasiment au moment de mourir, votre père dit « j'ai mis le point final ».
Oui.
Et une des interrogations motrices de ce texte, c'est se demander ce que c'est, ou ce que c'est le point final, ou ce que c'est que de dire qu'on met le point final, ou à quel texte on met le point final. Et puis vous racontez un rêve, Paul Duboucher, où vous êtes, on va dire, incité ou invité à écrire la suite.
Oui.
D'un texte.
Mais je raconte ce texte au début. Ce rêve au début, je crois. Oui, oui. Oui, oui, c'était... les rêves, c'est pas très intéressant, mais c'est plus...
Bah, quand même.
Non, mais c'est pas intéressant en tant qu'interprétation, etc. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça peut susciter après. En effet, si je l'ai noté, c'est qu'il y avait il y a eu un jour ce rêve de la suite. Il fallait écrire la suite. C'est pas pour ça que je me suis mise à écrire la suite, mais...
Non, mais c'est très musical, si on est en plein dans
Bach. Oui, absolument. C'est vrai. Absolument. Et je pense que Bach était complètement aussi dans ce questionnement du début, de la fin, de l'illimité aussi. Hein. Il a écrit la même chose que Victor Hugo, Bach, hein, je pense.
Vous écrivez absolument combien il ne sera pas possible de sonder la pensée de votre père, en tout cas d'en dénouer des inconnus. Ce livre n'est pas là pour dire ce que c'était que cette phrase ou ce que ça voulait dire, mais pour dire peut-être comment vous cheminez avec cette phrase. J'ai écrit le point final. Qu'est-ce que vous en avez compris de cette phrase-là après l'écriture de votre texte, Paul Duboucher ?
J'ai compris que je pouvais continuer à vivre.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal.
Les objets détruits, ils ont pour moi encore plus d'importance que les objets neufs. Je tiens plus à ce stylo-là, qui est encore un trait, mais un objet peu reluisant, qu'à un stylo neuf. Pourquoi ? Mais nous avons vécu ensemble, et je l'ai marqué. Diderot lui-même, il aimait sa vieille robe de chambre qui était élimée, qui était rapiécée, etc., parce qu'elle était lui. Il s'était incrusté en elle. Il y avait une familiarité entre elle et lui. Alors l'objet, là c'est un vêtement, là c'est un crayon. Oui, je le répète, quand il a fonctionné et qu'il est un petit peu défraîchi, il a encore plus de sens que quand il est neuf où il n'appartient à personne. Moi, ce que j'aime, c'est la relation entre le moi et la chose.
J'ai retrouvé le vieux vélo vert de mon père. Jay l'avait autrefois prêté à un ami. Par la suite, le vélo avait dormi dans une cave. Je n'y avais plus pensé depuis l'enfance. À l'époque, il était flambant neuf. J'entendais l'expression dans sa bouche pour la première fois. Nous lui envions ce flambant neuf, la locution qui pour moi désignait ce vert précis, autant que le rutilement des chromes. Vert olive. La couleur de nos propres vélos d'enfant pâlit dans mes souvenirs. Jaune et bleu, me semble-t-il. Celle qui demeure, c'est ce vert particulier du vélo de mon père et ces deux mots qui claquaient comme un drapeau, flambant neuf. Aujourd'hui, l'ami me le rapporte sans prévenir. Me dit, tu reconnais ? Dans l'instant, non, je ne vois pas. Une vieille bicyclette, trouvée dans quelque foire à tout. L'ami insiste. Je tends la main vers le cadre et d'un coup, cela ressemble à ce qui se passe en nous lorsqu'on retrouve quelqu'un qui a beaucoup vieilli et à qui on dit, tu n'as pas changé. Alors qu'on est dévasté par les signes du naufrage. Durant toutes ces années, il surgissait parfois dans une scène de ma mémoire, posée sur un talus, la roue avant dépassant l'herbe haute. On l'a jeté là pour voir de près quelque chose qu'on a aperçu en roulant. Dans une autre scène, mon père pédale tranquillement derrière nous. Soudain, le vélo vert nous double en bolide. Grand éclat de rire. Ou encore, la main secourable dans mon dos pour franchir les interminables faux plats de Belle-Île ou les cols pyrénéens. Le vélo vert, empathique, roule à mes côtés. À présent, la couleur a presque disparu. La selle a été changée. Il n'y a plus de garde-boue, mais c'est lui. L'ami l'a retapé. Il roule bien, les pneus sont neufs. Je ne sais pas comment le prendre, presque je n'ose, par crainte de briser la relation ténue entre souvenir et objet présent.
Un extrait de votre texte, Paul Duboucher, Debout sur le ciel, lu par Romain de Bec de Lièvre. Vous disiez tout à l'heure, lorsque je vous demandais comment vous avez écrit ce texte, comment pratiquement, vous m'avez dit avec les choses. Et on entendait dans cette archive François Dagonier parler du moi et de la chose qui l'intéresse. C'est la relation entre le moi et la chose. Alors j'en reviens aux choses et aux objets, notamment ce vélo. Ça veut dire que le vélo, il vous est rapporté, il entre dans le texte, il vient avec ses images et il en apporte des nouvelles, des auxquelles vous n'aviez pas pensé.
Il en apporte beaucoup d'ailleurs, il en apporte beaucoup parce qu'il est beaucoup question de vélo dans mon enfance. Puisque mon père ne conduisait pas, donc nous faisions tout à vélo.
Ou en taxi.
Le premier jour des vacances, pour apporter les vélos. Mais c'est tout. Donc oui, les choses, les objets avaient une grande importance. Une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai eu, comment dirais-je, envie ou besoin d'écrire ce texte, c'est compliqué de parler, hein, parce que moi j'écris précisément pour ne pas parler. Donc,
en même temps, vous venez en parler alors.
Oui, absolument, je me cache pas derrière mon ombre. Hein. Non, mais
j'entends que ce soit compliqué.
Mais c'est compliqué. Il y a quelque chose concernant mon père et de la part de ses lecteurs, enfin des personnes qui l'ont fréquenté, aimé comme ça, de l'ordre d'une sorte de vénération un peu sacrée qui me paraît fausser la personne réelle qu'il était. Et cette personne réelle, elle-même n'est pas distincte de son travail. Et c'est quelque chose de cet ordre que je voudrais dire. La pensée de mon père, c'était lui, tout simplement. C'était lui et sa cuisine approximative. C'était lui et ce vélo. C'était lui et les choses. C'est pas d'un côté comme ça. C'était cette simplicité, pas au sens où on dit c'était quelqu'un de très simple. Cette simplicité essentielle qui était dans les choses de la vie quotidienne. Et c'est ça dont je voudrais, dont j'ai eu besoin de rendre compte pour moi, pas pour donner un portrait de mon père, vous savez.
Mais aussi pour dire, parce que c'était votre propos tout à l'heure, que c'est un peu de votre rapport aux choses. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai aussi fait ça, et fait comme ça, parce que c'est comme ça que je vis avec les choses et les objets.
Complètement. J'ai eu aussi, c'est une des autres raisons qui ont fait que j'ai eu besoin d'écrire ce texte, c'est de trouver mon père en moi. Je peux pas le dire autrement.
Et d'ailleurs, je lisais Le Laboureur et ses fils qui laisse entendre que le trésor caché par le père, mais plus encore le père du père, en fait, est peut-être même encore avant dans la terre et qu'on ne connaît pas l'endroit. Je ne connais pas l'endroit, dit le père à ses fils. On entend dans ce texte qu'à plusieurs reprises, vous êtes, sinon surprise, en tout cas éclairée de vous dire, bah, c'est un peu là.
Oui, oui, absolument.
Ce que m'a donné mon père, c'est un peu dans ça.
Mais oui, et quand j'entends le passage, cette lecture qui m'a beaucoup émue, parce que entendre sa voix, c'est toujours très émouvant. Les voix sont, c'est beaucoup plus fort que l'image, hein, la voix charnelle. J'ai l'impression d'une sorte de sonate, de fugue, enfin, qu'on aurait, voilà.
Notamment dans les choses où vous semblez reconnaître votre père en vous, en tout cas peut-être le trésor plus ou moins caché, c'est la question de l'ouverture. Vous dites, si quelque chose m'a été légué, c'est une grande ouverture.
Je dis ça ?
Ouais, je crois.
Ah oui, je dis pas ça dans le livre.
Je suis pas sûre.
Ah
non
oui, ben, je sais pas. Sans doute, oui, je pense, oui. Sans doute. On ne sait pas toujours très bien hein, ce qui va se dégager d'un livre qu'on écrit. Quelquefois, on se relit après avoir été fécondé par le regard des autres, et on se rend compte de ce qu'on a écrit.
À contre-temps encore.
Ah oui. Thank you.
je le vois, lui, comme vivant dans la déchirure de son rapport au langage. Tout le monde sait qu'il est né sur la frontière, en Lorraine allemande, que le français est la langue parlée par sa mère, donc sa langue vraiment maternelle, mais qu'on parlait l'allemand à la maison et dans le pays, que tout jeune émigrant, il avait appris l'anglais à l'école du soir à New York, que cette langue restera pour lui une langue magique, que les sonorités de l'anglais restent pour lui une langue magique, et celle de son mythe personnel. C'est Babel, c'est le Nouveau Monde. Cette situation n'est pas toute originale. Beaucoup d'autres écrivains, surtout les écrivains d'Europe centrale, se sont trouvés au confluent de plusieurs langues. Ils ont choisi délibérément leur langue. Ce que mon père n'a pas fait, et tout au contraire, il fait de son refus de tout choix et d'une interdiction qu'il s'impose d'abandonner l'une ou l'autre des trois langues, quelque chose comme sa poétique, et comme son destin. Et il se concevait dans un destin linguistique et un destin tragique. Pour lui, la langue est malade, elle est exsangue, elle est ligotée par la syntaxe et la grammaire et par l'usure des mots. Et toute son activité de traducteur et d'éditeur bien connue dans la transition sera axée sur un nécessaire renouveau.
Un nécessaire renouveau, c'est une archive de 1988. On entend la voix de votre mère, Tina Jolas, parler de son père, Eugène Jolas. On évoquait tout à l'heure la polyphonie, plusieurs voix, des choses qui se rencontrent, des petits bras de ruisseau qui se réunissent. Dans votre texte, Paul Duboucher, sur votre propre père, vous dites « l'enfance insiste ». Malgré tout, y compris lorsque vous parlez de peut-être l'absence de parole de votre père sur sa propre enfance, vous disiez oui, mais quand même, ça insiste. Et ben, en écoutant votre mère parler de son propre père et du choix de langue et du rapport à sa langue maternelle et aux langues avec lesquelles il a écrit et traduit, je me dis oui, il y a vraiment quelque chose qui insiste.
Je n'ai pas connu mon grand-père. Hein. Il est mort un an après ma naissance. Mais vous voulez dire quelque chose qui insiste de l'ordre de l'enfance ou de...
Quelque chose qui insiste de l'ordre de l'enfance et puis peut-être aussi des motifs, des contretemps, je ne sais pas. C'est la seule archive qu'on a trouvée de votre mère qui apparaît dans ce texte-là, mais qui apparaît dans un autre livre. Il se trouve qu'elle parle de son père, elle parle de la langue, elle parle d'un père qui traduit. Mais
elle avait un père poète aussi, hein, ma mère.
C'est pour ça, c'est juste ma...
Ça m'a fait sourire. Les trois hommes de sa vie étaient des poètes, on peut dire, hein. Voilà, effectivement, mon père aimait beaucoup
ce
l'homme qui a été son beau-père pendant quelque temps. Il aimait beaucoup Eugène Jolas. Il y avait ce... Je crois que c'était un peu... Eugène Jolas, il a été comme ça un peu... perdu entre les langues, hein. Enfin, d'après ce que je sais, mais à part en effet cette très belle revue Transition qui a publié les plus grands écrivains américains entre les deux guerres et enfin anglo-saxons parmi lesquels Joyce, je ne sais pas grand chose de lui, sinon que ma mère avait une passion pour lui et qu'elle a eu elle-même des rapports très forts avec son père, très intenses, très privilégiés. Et il est mort quand elle était très jeune, hein. Elle avait quand même... elle avait 22 ans. Elle a perdu son père à 22 ans. Et ma mère elle-même avait cette espèce de... Ma mère était une personne poétique en elle-même. Vous savez, c'était... Et c'est étrange parce que, oui, je dis à un moment, l'enfance insiste, et elle insiste paradoxalement dans notre rapport avec notre père, parce que lui-même avait détesté son enfance, ne voulait pas en parler, n'en parlait pas, et c'est comme si il avait trouvé la magie de l'enfance à travers les nôtres. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de haut en couleur. Enfin, de haut tout simplement. On parlait de hauteur tout à l'heure. Je crois que cette hauteur de l'enfance, on l'a, c'est comme si on l'avait trouvé ensemble, enfin, quelque chose de...
Et vécu ensemble, par conséquent, ou pas forcément?
Bah, je veux dire, c'est que quand je dis il l'a trouvé ensemble, c'est on l'a trouvé. Il n'a jamais joué à l'enfant. Hein. Mon père était quelqu'un de enfin, c'était pour qui la justesse de là où il se tenait était quelque chose d'essentiel, et c'était aussi ça qui nous apprenait, si on peut dire. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la liberté de l'enfance, et de l'invention de l'enfance qui se jouait, qui s'inventait entre nous, toujours dans notre vie ensemble.
Et dont vous semblez écrire que ce n'était pas un retour à l'enfance pour lui, parce que lui non. Ne désignait pas l'enfance comme ayant été le lieu de ça.
Pas du tout. Non, oui, ce n'était absolument pas un retour à l'enfance, puisqu'il avait détesté son enfance. Mais je crois qu'il y avait quelque chose qu'il a vécu à travers les nôtres, en fait. Quelque chose d'heureux et de joyeux, enfin. Oui, on peut dire ça aussi à travers les nôtres.
On entendait donc la voix de votre mère, et je signalais ce texte qui est paru il y a quelques années, emporté aux éditions Actes Sud, donc un texte plus sur votre mère, pas sur votre mère, avec votre mère. Et ce texte-là, Debout sur le ciel, un texte avec votre père, est-ce que celui-ci a joué un rôle ou a été quelque part pendant l'écriture de celui-là?
Non, l'écriture des deux livres a été distincte dans le temps.
Bien sûr. Mais au moment d'écrire le texte Debout sur le ciel, je ne sais pas, est-ce que ça avait une importance quelque part d'avoir écrit ce texte précédemment, après la mort de votre mère?
Je pense que j'ai écrit les deux textes dans des urgences différentes et dans une priorité qui était d'abord d'écrire ce texte qui parle de ma mère, et ensuite d'écrire ce texte qui parle de mon père. Enfin, je crois qu'il y a un ordre qui pouvait pas être autrement. Mais je ne pense pas que l'un ait donné l'autre. Enfin, ils sont distincts, comme mes parents étaient distincts et comme je le suis moi aussi.
Merci infiniment, Paul Dubouchet, d'avoir été avec nous. Debout sur le ciel, c'est le titre de ce récit paru chez Gallimard. Le texte qu'on vient d'évoquer s'appelle Emporté. C'est aux éditions Actes Sud. Puisqu'on a beaucoup parlé de Bach, on peut signaler Magnificat, Jean-Sébastien Bach. C'était paru aux éditions de La Découverte au milieu des années 90.
Découverte Gallimard. Chez Gallimard.
Oui, la collection Découverte chez Gallimard.
Voilà.
Merci beaucoup. Par les temps qui courent, un endroit où vous êtes bien?
Un endroit où je suis bien? Chez moi, à la campagne, dans le Vexin. À ma table de travail, enfin à ma table, la table qui est devant la fenêtre.
Devant la fenêtre?
Oui.
Par les temps qui courent, qu'écouter pour se mettre en route?
Qu'écouter pour se mettre en route? Je pense, tout à l'heure vous avez parlé de l'art de la fugue, je pense une des fugues de l'art de la fugue, certainement.
Par les temps qui courent, quel livre garder ouvert?
Ça, c'est vraiment une colle, parce que livre à garder ouvert, qu'est-ce qu'on peut garder ouvert? Tolstoï, Guerre et Paix.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous le souhaitez, sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Diana Alcide-Tanière, à la réalisation Milena Elig, et Jeanne Aléos, Corinne Amard, Romain Debecq de Lièvre m'aident à penser cette émission et je réponds @mariericheux sur Twitter.